VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le vendredi 5 juin 2020. Bienvenue à l'écoute. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui. À la une de l'actualité ce soir. Au Cameroun, l'armée confirme la mort en détention l'année dernière du journaliste anglophone Samuel Wazizi, accusé de terrorisme. Au Mali, manifestation à Bamako aujourd'hui à l'appel de religieux et d'opposants pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Ce n'est pas une lutte contre une personne, c'est une lutte contre un système. Les anciens ont compris que l'ancien doit être le premier sur place.
Nouvelle vague d'attaques meurtrières au Nigeria, une vingtaine de personnes tuées par des groupes armés dans le nord-ouest du pays. Paix et sécurité en Afrique, le thème d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. À l'agenda, les accusations de violation des droits de l'homme par les armées du Sahel. Également dans l'actualité, le président américain Donald Trump affirme que les États-Unis ont largement surmonté la pandémie de Covid-19. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économie et sport à venir dans environ 10 minutes. Du nouveau dans la mort du journaliste camerounais Samuel Wazizi, arrêté en août de l'année dernière pour avoir critiqué la gestion par Yaoundé du conflit dans les régions anglophones. L'armée confirme ce vendredi sa mort en détention l'année dernière, mais réfute des actes de torture et l'accuse d'intelligence avec les terroristes. L'armée affirme également que sa famille a été prévenue de son décès, ce que ses avocats démentent. De Yaoundé pour VOA Afrique, Emmanuel Junta.
Le communiqué du ministère de la Défense a été lu au cours du journal de la mi-journée sur les ondes de la CRTV, la radio d'État. Le journaliste de la CRTV rapporte que Wazizi est décédé à l'hôpital militaire de Yaoundé en 2019 et non il y a 4 jours.
Le certificat de genre de mort délivré par cet hôpital précisait clairement que le nommé Samuel Eboué Adjekia, alias Samuel Wazizi, y était décédé le 17 août 2019. Des suites d'une sepsis sévère.
D'après le porte-parole de l'armée, Samuel Wazizi était un logisticien de 3 groupes terroristes dans le département du Fako, région du Sud-Ouest. Il a été arrêté le 3 août 2019 au cours d'une opération de sécurité sur le terrain. Transféré à Yaoundé 10 jours plus tard, il présentait un état de santé fébrile. Sa famille a été informée de son décès, mais n'a engagé aucune diligence sur les obsèques. Aussitôt rendu public, cette version des faits du gouvernement a été contestée par Denis Kwebo, président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Jemtap, VOA Afrique.
Au Mali, des milliers de personnes se sont rassemblées ce vendredi à Bamako à l'appel d'une alliance de religieux, d'opposants et de la société civile pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Des banderoles réclamaient la libération de l'ex-premier ministre et principal opposant Soumaïla Cissé, enlevé le 25 mars dernier alors qu'il était en campagne pour les élections législatives dans sa zone d'origine. Nous y reviendrons dans la Tranche Magazine tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, le PDCI, principal parti de l'opposition, désignera son candidat à la présidentielle d'octobre prochain, les 25 et 26 juillet, lors d'une convention éclatée d'après le bureau politique de ce parti. Initialement, cette convention devait se tenir du 12 au 14 juin à Abidjan, mais la pandémie du coronavirus a conduit le parti à changer ses dates. L'ancien président Henri Konan Bédié, 85 ans, entretient le mystère sur son éventuelle candidature. Au Nigeria, des bandes armées ont tué 21 personnes lors des dernières attaques meurtrières contre des villages dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'indique la police. Nathalie Barge.
Les assaillants qui tentaient de voler du bétail ont abattu 15 personnes lors d'affrontements avec des habitants de 6 villages reculés de l'état de Zamfara mardi, a annoncé le porte-parole de la police régionale, Mohamed Chehou. Les hommes armés sont revenus le lendemain et ont abattu 6 personnes lors des funérailles des victimes de la veille, selon le communiqué. La semaine dernière, des dizaines de personnes ont été tuées dans plusieurs villages dans l'état voisin de Sokoto. En mai dernier, l'armée a effectué des raids aériens pour tenter d'arrêter ces attaques. Les autorités mènent régulièrement des opérations de sécurité ainsi que des négociations dans les communautés de ces régions sans parvenir à faire cesser la violence.
Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui autour du thème « Paix et sécurité en Afrique ». L'un des principaux sujets concerne les accusations d'exactions des soldats du Mali, du Burkina Faso et du Niger contre les populations locales qui se multiplient dans le Sahel. Claire Morin-Gibourg.
Début avril, la MINUSMA a dénoncé la multiplication des exactions imputées aux armées nationales. L'ONU a dénombré 101 exécutions extrajudiciaires perpétrées par l'armée malienne entre janvier et mars et une trentaine d'autres par l'armée nigérienne sur le sol malien. 12 personnes arrêtées pour suspicion de terrorisme au Burkina Faso sont mortes en détention. Au Niger, 102 personnes auraient été tuées par l'armée dans la région de Tillabéri et le ministère de la Défense a promis une enquête. À chaque fois, des organisations de défense des droits humains publient des listes de noms, des photos en déplorant la disparition des intéressés, en majorité des Peuls, après le passage de soldats. La réunion programmée début mai a été reportée à la demande du Niger, membre non permanent du Conseil de sécurité, pour donner du temps aux pays sahéliens pour préparer leurs réponses.
En République démocratique du Congo, près de 1300 civils ont été tués et plus d'un demi-million déplacés dans divers conflits entre groupes armés et forces de sécurité entre octobre 2019 et fin mai 2020, d'après l'ONU. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 531 civils ont été tués en Ituri, principalement par la milice dite Codeco, coopérative pour le développement du Congo, dont le leader, Justin Njogolo, a été tué en mars. Dans le Nord Kivu, 514 civils ont été tués, la plupart par les rebelles ougandais ADF en représailles au lancement d'opérations militaires dans la région. Au Sud Kivu, au moins 74 personnes ont été massacrées, dont 36 femmes et enfants, d'après le HCR, qui fait cas de plus de 110 000 personnes déplacées dans cette région et 400 000 dans le Nord Kivu depuis septembre. Les Nations Unies ajoutent que les forces armées et la police nationale ont aussi tué 17 civils entre octobre 2019 et mai 2020. D'après Michel Bachelet, patronne du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, qui vient de terminer une visite dans la région, le caractère généralisé et systématique des attaques contre des civils en Ituri et au Nord Kivu peut constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
Au Burundi, la justice a confirmé en appel la condamnation à une peine de prison de 4 journalistes arrêtés en octobre dernier alors qu'ils couvraient l'incursion de rebelles venus de la RDC voisine. Les 4 journalistes, Agnès Diriboussa, Christine Kamikazi, Égide Aririmana et Terence Popenzi, travaillent pour Iwachu, l'un des derniers médias indépendants du pays. Ils avaient été condamnés fin janvier à 2 ans et demi de prison en première instance par un tribunal de Bubanza, officiellement pour tentative de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis ce vendredi l'envoi de renforts médicaux dans la province du Cap Occidental, dont les capacités hospitalières sont débordées par l'augmentation rapide des cas de coronavirus. La région de la ville du Cap, contrôlée par l'opposition, est devenue ces dernières semaines l'épicentre national de la pandémie, dont elle concentre les 2/3 des 40 000 infections et les 3/4 des 848 décès recensés à ce jour. En Libye, les forces pro-gouvernementales ont annoncé ce vendredi avoir pris le contrôle de l'ensemble de l'ouest du pays. Il s'agit d'une défaite cinglante aux troupes rivales du maréchal Khalifa Haftar. Chassé de leur dernier fief dans cette région, le GNA, le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU, indique que ses forces ont étendu leur contrôle sur toute la ville de Tarouna, à 80 km au sud de la capitale, Tripoli. La perte de Tarouna marque un tournant dans le conflit opposant les deux camps depuis le lancement en avril de l'année dernière par le maréchal Haftar d'une offensive pour s'emparer de Tripoli, où siège le GNA en pleine lutte de pouvoir dans ce pays pétrolier plongé dans le chaos. L'ONG Médecins Sans Frontières indique avoir été contrainte de suspendre ses activités dans le nord du Mozambique après l'attaque d'une ville par des groupes islamistes armés. D'après MSF, ces groupes ont mis le feu à des maisons, des magasins, des écoles, des édifices religieux et des bâtiments gouvernementaux à Makomia, dans la province du Cabo Delgado, le 28 28 mai dernier, le centre de santé de MSF a été sérieusement endommagé. Depuis octobre 2017, des groupes islamistes désignés sous le nom d'Al-Shabaab opèrent dans cette région. Depuis plusieurs mois, le groupe État islamique revendique la plupart des attaques.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump affirme ce vendredi que les États-Unis ont largement surmonté la pandémie de Covid-19 qui continue de faire autour d'un millier de morts chaque jour dans le pays. Commentant la baisse surprise du chômage en mai, le président Trump a vanté la force de l'économie américaine. Cette force nous a permis de surmonter cette horrible pandémie, a-t-il dit lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche aujourd'hui. Selon lui, le pays a fait un grand pas dans son rebond et les prochains mois démontreront que l'économie en pleine santé avant l'épidémie et le confinement, repartira de plus belle, dit-il. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé des nouvelles économiques en Afrique, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement a annoncé le lancement d'une enquête indépendante sur les accusations de prévarication contre son président, le Nigérian Akinwumi Adesina, seul candidat à sa propre réélection. L'institution a cédé à l'exigence des États-Unis, insatisfait de l'enquête interne qui avait totalement disculpé M. Adesina de graves accusations telles qu'en enrichissement personnel et favoritisme. Le Kenya interdit à partir de ce vendredi tous les plastiques à usage unique dans ses parcs nationaux, plages, forêts et autres zones protégées. 3 ans après l'interdiction des sacs plastiques, cette nouvelle mesure se concrétise à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Avant l'épidémie de coronavirus, le Kenya accueillait chaque année 2 millions de touristes. Le gouvernement mauricien mise sur les grands projets de construction d'infrastructures pour redémarrer l'économie mise à mal par la pandémie de Covid-19, a déclaré le ministre des Finances Ranganathan Padayach. Le nouveau budget de 2,5 milliards de dollars doit être présenté au Parlement ce vendredi. Il est axé sur l'investissement, des changements structurels majeurs et un développement durable et inclusif.
Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouidraougo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous, c'est OK. La NBA a approuvé un plan pour relancer sa saison suspendue avec un début provisoire le 31 juillet à Disney World en Floride. Le plan verra 22 des 30 équipes jouer 8 matchs de classement pour déterminer un champ éliminatoire des 16 équipes. Le champion devrait être couronné au plus tard le 12 octobre. Alors que la pandémie de Covid-19 présente de formidables défis, nous espérons pouvoir terminer la saison de manière sûre et responsable sur la base du protocole strict en cours de finalisation avec les responsables de la santé publique et les experts médicaux, a déclaré le commissaire de la NBA Adam Silver. Tous les matchs, les entraînements et le logement se feront au complexe ESPN Wild World of Sport qui se trouve à l'intérieur du complexe d'Orlando. La saison 2020-2021 débutera le 1er décembre. En athlétisme, la Bahreïni Salwa Eid Nasser, championne du monde du 400 mètres, a été suspendue provisoirement pour manquement à ses obligations de localisation antidopage. Selon l'unité d'intégrité de l'athlétisme, la Nigériane d'origine, qui a pris la nationalité de son père en 2014, est rentrée dans l'histoire en octobre 2019 à Doha, au Qatar, en réalisant le troisième meilleur chrono de tous les temps sur 400 mètres, 48 secondes à 14. Pour rappel, les sportifs de haut niveau sont soumis à des obligations de localisation, adresse, stage, entraînement, compétition, et doivent en plus renseigner chaque jour un créneau d'une heure et un lieu afin de pouvoir être testés de façon inopinée. 3 manquements à ces obligations, un contrôle manqué ou des renseignements imprécis en moins d'un an sont passibles de 2 ans de suspension. Football, en Angleterre, la fédération a mis un terme à la saison 2019-2020 du championnat féminin, sacrant les joueuses de Chelsea, championne mais relégant Liverpool. Le système de la moyenne des points par match a été retenu pour effectuer le classement final. Manchester City occupait la première place du classement avec 40 points devant Chelsea lorsque la saison a été interrompue, mais les Blues comptent un match en moins et elles repassent donc devant avec le mode de calcul retenu. L'équipe féminine de Liverpool était, elle, dernière avec 6 points pris en 14 matchs et est donc reléguée. Les féminines de Liverpool seront remplacées en Women's Super League par Aston Villa, sacré champion de D2, selon les mêmes modalités. Sur le continent, la Fédération centrafricaine de football s'est finalement résolue à annuler sa saison 2019-2020. Les compétitions étaient suspendues depuis le 19 mars. Le comité exécutif de la Fédération centrafricaine dit avoir constaté l'impossibilité d'organiser les compétitions, championnats et coupes et n'entend pas engager de clubs dans les compétitions africaines la saison prochaine.
Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en programme de VOA Afrique. Merci pour votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Au Mali, le leader politico-religieux, l'imam Mahamoud Diko, a appelé la population à manifester ce vendredi pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Pour l'imam Diko, ancien président du Haut Conseil islamique du pays, les Maliens sont confrontés quotidiennement à de nombreuses crises telles que l'épidémie du coronavirus et l'insécurité qui perdure, de même qu'aux problèmes socio-économiques et à la mauvaise gouvernance. De leur côté, les partis de la majorité présidentielle affirment que les revendications des initiateurs de la protestation, qualifiées d'anticonstitutionnelles, ont déjà fait l'objet d'un débat au cours du dialogue national inclusif dont la mise en œuvre est en cours. De Bamako, le reportage de Kassine Traoré.
Sur le boulevard de l'indépendance, il y avait du monde. Ils sont venus de toutes les corporations du pays. Et en première ligne, il y avait les enseignants. Djangine Keïta, enseignant.
C'est pas une lutte contre une personne, c'est une lutte contre un système. Les enseignants ont compris que l'enseignant doit être le premier sur place. Je suis membre de la coordination Supesco et le coordinateur Supesco s'est allié au mouvement officiellement. C'est pour vous dire que la coordination du district a invité tous les enseignants, tous les fils du Mali à venir participer à cette marche républicaine. Nous avons compris que le système malien fait de sorte que l'école ne va jamais devenir l'école que nous souhaitons, c'est-à-dire une école performante capable de donner, produire des meilleurs cadres de demain.
Afin de sur la mobilisation, les organisateurs ont organisé sur place la prière de vendredi et les jeunes étaient les plus nombreux.
Parce que c'est pas anticonstitutionnel. On a vu dans le cas d'Algérie, on a vu le cas de Tunisie, on a vu le cas de Soudan. Tout le même est sorti, mais on sort pacifiquement de demander au président de la République de démissionner simplement et purement. Parce qu'on voit que le pays va très mal, il n'a pas la solution. Quand l'autre a des solutions, on verra ça, Inch'Allah.
Sur les pancartes et banderoles de la manifestation, on pouvait lire « Trop, c'est trop ». Sept ans de pouvoir, ça suffit, ou encore non aux enlèvements politiques, libérer Soumaïla Cissé.
Mais nous constatons qu'aujourd'hui au Mali, ceux-là qui s'inquiètent plus, ce n'est pas le président de la République, mais ceux-là qui sont autour de lui. Lui-même, il a dit en conseil de ministre à ses ministres que s'ils ne font pas bien les choses pour le peuple malien, c'est pas lui celui qui va tomber, mais celui qui doit tomber avec lui. Donc lui, il est conscient qu'aujourd'hui, le pays n'est pas dirigé par les personnes qui ont des compétences nécessaires pour diriger ce pays. Comme lui me l'avait dit à Amadou Toumani Touré, il avait dit au président Amadou Toumani Touré que pour incompétence, il dégage. Mais nous, nous ne devons pas le dégager, mais nous demandons pour insuffisance seulement de démissionner.
Les organisateurs de ces rassemblements pensent qu'il est temps que le Mali retourne à la démocratie normale.
La pratique que nous voyons avec son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas la démocratie que nous avons cherchée en 91. Certes, nous étions certes jeunes, mais nous étions des élèves à l'époque. Nous sommes sortis pour faire tomber un régime militaire. Nous n'allons pas accepter une démocratie policière au Mali. C'est pourquoi nous demandons humblement au président de la République, il n'a pas pu répondre aux attentes du peuple malien. Quand on n'est pas en mesure de répondre aux attentes du peuple malien, on doit avoir le courage de dire « j'ai pas pu ». Ça, ça aussi la grandeur du peuple malien. C'est une manifestation pacifique.
Les organisateurs de ce rassemblement demandent la reconstruction de l'armée malienne, une priorisation de l'école, la libération de Soumaïla Cissé, la garantie de l'accès aux services sociaux de base et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Bamako, Kassine Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, la fermeture des lieux de culte le 20 mars dernier, l'une des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus, reste en vigueur. Les fidèles musulmans, catholiques et protestants, ont du mal à honorer leur engagement religieux. André Kodmajingar, correspondant de VO Afrique, fait le point de N'Djamena.
Chaque vendredi et dimanche, les fidèles de trois confessions religieuses tournent en rond depuis plus de deux mois. Les mosquées, les églises et les paroisses restent fermées et les prières collectives sont interdites pour éviter la propagation du coronavirus.
La personne de là porte le boubou blanche pour passer dans la mosquée, mais la mosquée est fermée. Quand une chose qu'on dit maladie, te dit tu guéris, mais c'est pas le remède qu'on en a qui va guérir la personne.
Toubou Mohamed Boukit, président de l'Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans des universités du Tchad, comme lui, beaucoup d'autres musulmans ont du mal à assurer leurs devoirs religieux.
Ce qui arrive, c'est Dieu qui a annulé. Donc, le fait de fermer la mosquée ou autre, c'est pas une solution. Il faut que la mosquée soit ouverte et les gens viennent faire la prière, demander de Dieu. Donc, c'est la paix qui va nous arriver.
Dans le principe aussi de l'islam, si vous priez en groupe, vous aurez beaucoup aussi de miséricorde. La personne prie vraiment seule, il a seulement un. Mais si vous êtes deux, vous avez un cercle de bénédiction.
La fermeture du lieu de culte est aussi durement ressentie pour la communauté chrétienne en général et catholique en particulier en cette période de carême qui prépare les fidèles à vivre la solennité de la Pâque.
Les fidèles ont dû s'arrêter cet exercice de foi, de vivre l'expérience de la passion du Christ, mais la fermeture des lieux de culte les a amenés à vivre l'expérience des premiers chrétiens où l'église était domestique.
Abbé Albert Moutin est papa mais curé de la paroisse Sainte-Joséphine Paquita d'Atron 1. Pour lui, la fermeture du lieu de culte a eu et aura justement ses avantages et ses inconvénients.
Avantages dans le sens où cela a permis aux chrétiens de vivre une rencontre personnelle avec le Christ. Et les inconvénients, nous avons aussi des chrétiens qui parfois n'ont pas pris encore conscience de la dimension personnelle avec le Christ. Et pour cela, c'est vrai, ce serait difficile au début de cette crise de pouvoir garder cette connexion à Dieu. C'est vrai, le manque de rassemblement public pourrait refroidir l'élan de certains de nos fidèles. Ça, on ne peut pas en exclure.
Technologie aidant, certaines églises évangéliques locales utilisent les réseaux sociaux pour amener les fidèles chrétiens à ne pas s'éloigner de Dieu. C'est le cas de l'église évangélique missionnaire au Tchad qui a créé un groupe WhatsApp pour ses membres. L'Aldim Célestin en est l'administrateur.
Comme les églises sont fermées, nous ne pouvons pas nous retrouver comme d'habitude prier le Seigneur, mais cette plateforme nous donne l'occasion à nous aider les uns les autres. Donc le matin, nous nous encourageons dans la méditation de la parole de Dieu, dans la prière, et puis le soir, c'est la même chose que nous faisons. La Bible nous demande vraiment d'obéir aux autorités. Et lorsque les autorités prennent des mesures, nous sommes obligés vraiment d'obéir.
Selon les autorités médicales, la courbe épidémiologique est en baisse dans la capitale N'Djamena, mais gagne de terrain dans les provinces, car sur 23 provinces, 15 sont déjà touchées par la pandémie. André Kodumadigar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Nigeria, où les manifestations de rue sont rares et souvent réprimées dans le sang, une protestation a eu lieu aujourd'hui à Abuja pour dénoncer les violences faites aux femmes à l'initiative des organisations de la société civile. Des manifestations ont également été tenues dans d'autres villes du pays après de nombreux cas de viols ou meurtres commis contre des jeunes filles. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Les organisateurs appellent à une action du gouvernement pour mettre fin à la violence contre les femmes. La semaine dernière, trois cas de viol ont été signalés au Nigeria. Une étudiante de 22 ans de l'université de Bénin dans l'état d'Edo a été violée et tuée. Dans le sud-ouest, une autre adolescente de 18 ans a été violée par un groupe de 5 personnes et tuée à Ibadan. Cela a provoqué de vives réactions et une grande indignation dans le pays. Des manifestations ont été organisées dans certaines villes pour protester contre la multiplication de ces cas de viols et d'assassinats de femmes. Daniel Sin Aban est le président de l'Association nationale des étudiants.
Nous sommes là pour dire non au viol. Nous sommes là pour dire non aux violences sexuelles. Et cet appel, c'est aussi en direction de la communauté internationale pour dire que les étudiants nigérians ont à l'unanimité décidé que la punition pour un auteur de viol doit être la peine de mort.
Les débats sur la question ont dominé hier au Parlement fédéral à Abuja. Témoignage.
La politique du gouvernement fédéral et les décisions du Parlement doivent aider à mettre fin aux violences contre les femmes et soutenir les actions de développement de la femme.
Ils ont violé la fille et l'ont assassinée. Et quand les parents se sont rendus à la police pour se plaindre, on leur a demandé de payer les frais de mobilisation. Vous voyez cela, mon Dieu ?
Chaque jour, on entend les gens demander aux filles de se protéger et rester soi, mais personne ne parle aux jeunes garçons. Personne ne dit aux garçons de respecter les femmes, de respecter les jeunes filles autour d'eux.
De nombreux Nigériens estiment que la police et le gouvernement ne font pas assez pour protéger les femmes contre les violences sexuelles. Pour Innocent Chukuma, directeur régional de la Fondation West African Ford, le viol au Nigeria est devenu une épidémie.
Le viol dans la société nigériane est une épidémie qui a dépassé les limites à cause de la négligence criminelle de diverses autorités et figures politiques.
Peu d'arrestations sont effectuées jusqu'ici. Dans l'état de Jigawa, la police a récemment arrêté 11 personnes pour viol d'une fillette de 12 ans. Pourtant, au Nigeria, le viol est un crime grave. Il s'agit d'une infraction pénale et si l'accusé est reconnu coupable, il est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Mais la justice traîne souvent les pieds pour juger les acteurs de ces crimes et certains qui ont été en prison finissent par se retrouver dehors en toute liberté. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, familles, leaders religieux, politiques et célébrités se sont rassemblés hier à l'université chrétienne North Central à Minneapolis pour honorer la mémoire de George Floyd, cet Africain-Américain dont la mort à 46 ans sous le genou d'un policier blanc le 25 mai dernier a déclenché une profonde vague de colère. Prenant la parole lors de cette cérémonie empreinte d'émotion, le frère du défunt, Philonise Floyd, a dénoncé sous les applaudissements la pandémie de racisme et de discrimination qu'il a emporté. Au sujet justement des relations raciales en Amérique, Bagassi Koura a recueilli l'analyse du philosophe Suleiman Bashir-Diagne, professeur à l'Université Columbia de New York.
Le racisme structurel, c'est un racisme où il n'y a pas, si vous voulez, à accuser des individus particuliers de nourrir des sentiments racistes. Il s'agit d'un racisme qui est inscrit dans l'institution elle-même. Et par exemple, dans le cas d'espèce, prenons la police. Si la police intègre l'idée que sa mission, c'est de défendre une certaine catégorie de citoyens contre une autre catégorie de citoyens, si cette autre catégorie de citoyens est considéré comme suspect a priori, par exemple des gens d'une certaine couleur ou des gens habitant dans certains quartiers, alors à ce moment-là, vous avez un racisme institutionnalisé, vous avez un racisme structurel qui n'a rien à voir avec les sentiments particuliers de tel ou tel individu. Et malheureusement, c'est à cette culture-là qu'il faut s'attaquer, plutôt qu'à simplement dénoncer des cas individuels.
Alors, on a vu les images de casse, de violence, et vous vous dites que cette violence n'entame en rien la justesse de la lutte.
Absolument, parce que, évidemment, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est de voir des scènes de pillage, des gens qui cassent des vitrines, etc. Mais ce qu'il y a d'important dans ces manifestations, et tout le monde l'a senti, c'est que l'image d'une jeunesse, parce que la plupart des manifestants étaient jeunes, mais d'une jeunesse qui refuse la justice, est une image infiniment plus forte que des images locales de pillage.
Alors, il y a eu plusieurs cas de violence raciste. Est-ce que vous pensez que nous sommes à un tournant en ce moment?
Je crois que, évidemment, le meurtre de George Floyd, on l'a suffisamment dit, arrive après d'autres meurtres de même nature, d'autres exemples de violence policière. Mais cette fois-ci, on a le sentiment que quelque chose a radicalement basculé. Je le disais tout à l'heure, d'abord, si vous regardez les manifestants, le fait que ça soit une représentation de la société américaine qui est majoritairement blanche, mais justement les manifestations aussi étaient souvent majoritairement blanches. Ça veut dire donc qu'il y a une sorte de refus global de la société américaine de l'injustice qui s'est ainsi manifestée dans cette vidéo. Et non seulement c'est un refus de la société américaine dans son ensemble, mais également mondial. Le caractère mondial de ces manifestations est également un phénomène nouveau. Le reste du monde n'a pas simplement manifesté par solidarité, mais a manifesté également pour indiquer un refus mondial de l'injustice et de l'inégalité. Et ça, c'est un phénomène radicalement nouveau.
Professeur Souleymane Bachir-Zain de l'Université Columbia à New York. Et voilà, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Georges Léonard Sagnio et Lionel Gaïma. L'info continue sur nos ondes et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. À très bientôt. Take care. Prenez bien soin de vous.